Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Quels sont les principaux secteurs attractifs pour les investissements en Afrique pour l'année 2024? Quelle est la météo économique du continent selon les différentes sous-régions? C'est le principal sujet de Coémergence de cette semaine et nous en parlons longuement avec notre invité. Il s'agit de François Conradi, économiste senior à l'Africa Oxford Economics. Il sera avec nous dans quelques minutes. Nous revenons également sur la tenue au Maroc de la conférence ministérielle de haut niveau des pays à revenus intermédiaires. C'était au cours de cette semaine. Vous entendrez la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohamed. Elle était à Rabat pour participer à cet important événement. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, Rabat a accueilli mardi dernier la conférence ministérielle de haut niveau des pays à revenus intermédiaires. Plusieurs hauts responsables y ont pris part, à l'image de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohamed, que je vous propose d'écouter.
It is an important meeting, dialogue, debate and conference that we come to on middle-income countries.
Il s'agit d'une réunion, d'un dialogue, d'un débat et d'une conférence importante sur les pays à revenus intermédiaires. Le Maroc est le meilleur endroit pour une telle réunion. C'est un pays qui sait relever les défis et croit que les pays à revenus intermédiaires seront le moteur qui propulsera le succès des objectifs de développement durable d'ici 2030. J'espère que nous verrons les efforts déployés à New York pour permettre au pays de reprendre ses défis, des domaines spécifiques liés à la technologie et à l'architecture de financement, qui ont beaucoup à voir avec les systèmes alimentaires et l'énergie. De nombreux investissements doivent être réalisés dans les pays à revenus intermédiaires. Nous constatons que ces pays s'en sortent et qu'ils comptent parmi eux des jeunes et bien sûr des femmes. Nous sommes donc impatients de reprendre des discussions concrètes à New York et de les préparer à l'échelle mondiale.
Including our young populations and of course women.
Pour sa part, le ministre marocain des Affaires étrangères est revenu sur les grands défis que rencontrent les pays à revenus intermédiaires. Je vous propose d'écouter Nasser Bourita.
Le premier constat, et je ne vous apprends rien, est que les pays à revenus intermédiaires sont confrontés à des défis similaires. Les crises en cascade qui se sont succédées ces dernières années ont durablement touché la dynamique de développement. Le deuxième constat est que les écarts dans la coopération pour le développement se sont accentués, au moment où, même où les pays à revenus intermédiaires ont plus que jamais besoin d'une attention particulière. Troisième constat est que les pays à revenus intermédiaires constituent le véritable baromètre de l'état du développement durable dans le monde. Ils le sont par leur place et leur poids dans l'économie mondiale. Ils le sont aussi par leurs atouts et leur dynamisme démographique. Ils le sont enfin par leur diversité et leur représentativité géographique et culturelle.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de François Conradi, il est économiste senior à l'Africa Oxford Economics. Avec lui, nous allons parler, nous allons faire la météo économique du continent pour l'année 2024. Quels sont les principaux secteurs attractifs pour les investissements en Afrique? Quelles sont les sous-régions où il faut aller investir dans le continent au cours de cette année? François Conradi est avec nous. Bonjour François Conradi. Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors, tout d'abord, de façon générale, Quelles sont les perspectives économiques du continent pour cette année 2024?
Donc, pour le consommateur, les perspectives sont meilleures qu'en 2023 et en 2022 parce que le choc inflationnaire qui a suivi l'invasion russe de l'Ukraine n'est plus d'actualité. Les prix sont en train de baisser. Nous voyons l'inflation à la baisse dans tous les pays du continent. Et bientôt, les banques centrales vont suivre avec des baisses de taux d'intérêt. La Mozambique a acté en premier une baisse la semaine dernière. Il faut dire que le taux chez eux était très élevé. Nous pensons que d'ici le milieu de l'année, d'autres banques centrales vont suivre, même si là, récemment, on a vu des hausses de la part des banques centrales au Kenya et au Malawi. Donc, tout cela est positif pour le consommateur. En même temps, les gouvernements sont à court d'argent. Il y en a beaucoup qui sont en train de parler au FMI. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à hausser les impôts et à couper les subventions. Donc, encore une fois, au Kenya, nous avons vu ça acté dans la forme d'une nouvelle loi de finances avec de nouveaux impôts au milieu de l'année dernière, oui. Et il y a eu des émeutes qui ont suivi. Donc, le consommateur va être confronté à de nouveaux impôts. Mais ce qu'il y a aussi, et c'est cela qui est intéressant du point de vue investissement, vous avez parlé d'investissement, c'est qu'il y aura des sphères dans lesquelles les gouvernements n'auront plus la capacité de fournir les services que voudraient voir les citoyens. Donc, il pourrait y avoir dans l'éducation et la santé des opportunités pour le privé.
En tout cas, je pense que c'est intéressant comme tableau général. Alors, on va parler sous-région par sous-région. Commençons par l'Afrique du Nord. Quelles sont les perspectives économiques pour cette région et surtout, s'il y a investissement, quels sont les secteurs vers lesquels il est souhaité d'orienter les investisseurs?
Oui, donc l'Afrique du Nord est en train de bénéficier d'une prise de conscience de la part des multinationales qu'il est dangereux d'avoir des chaînes logistiques trop longues. Donc, pendant le Covid, les interruptions de production en Chine ont vraiment compliqué la vie à beaucoup de sociétés qui sont désormais en train de s'implanter très activement, surtout en Égypte et au Maroc, pour être plus près des clients en Europe. Et cela même pour les entreprises chinoises. Donc, ça, c'est une bonne chose pour ces pays, bien sûr. On voit une création d'emplois, une valeur ajoutée et un effet sur le PIB. Et donc, dans ces entreprises, peut-être à plus petite échelle, la même dynamique peut présenter des opportunités pour l'investissement. Mm-hmm. À part ça, au Maroc, on s'inquiète bien sûr pour la précipitation et l'effet que ça va avoir sur l'agriculture et de par l'agriculture sur la consommation interne. Mm-hmm. Pour le reste de l'Afrique du Nord, en Égypte, une crise fiscale assez sérieuse. Donc, le gouvernement est en train de négocier avec le FMI une hausse de son programme d'emprunt. Mais en même temps, juste hier, le président Sisi a annoncé des hausses de salaires et de pensions qui vont coûter 6 milliards de dollars par an. Donc, il y a une logique un peu ambiguë dans cela. Voilà pour l'Afrique du Nord, je pense.
Oui, alors certainement, on a d'autres cas comme la Tunisie, entre autres, mais on aura l'occasion d'y revenir certainement dans nos prochaines émissions. Alors, on doit parcourir toute l'Afrique. Alors, peut-être je voulais dire deux mots sur la Tunisie.
Oui, pour la Tunisie, donc, y a des soucis politiques par rapport à l'investissement. Les gens hésitent à s'engager parce que il y a un manque de clarté sur la direction politique. On ne sait pas ce qui va se passer sur les subventions et en même temps, il y a des inefficacités dans le comment le gouvernement fonctionne. Donc, je pense que pour des raisons politiques, les investisseurs en ce moment boudent la Tunisie.
En tout cas, c'est à suivre. Alors, on va aller peut-être beaucoup plus rapidement, région par région. On a le cas de l'Afrique de l'Ouest, François Conradi. Quelle est la météo qui s'y dégage sur le plan investissement et économie?
Alors, en Afrique de l'Ouest, encore une fois, il y a des thèmes politiques qui sont importants à regarder. Donc, avec les trois pays du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, qui parlent de sortir de la CEDEAO.
Qui sont déjà sortis, officiellement.
Ils ont annoncé ça, oui, mais donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, alors, qu'est-ce qui va se passer après de ce qui est commerce, règles douanières, règles pour le libre mouvement des personnes, tout cela reste à voir. Et donc, s'il y a un choc par rapport au commerce dans la région, cela peut affecter beaucoup d'entreprises. Mais à part cela, les perspectives sont assez positives. Donc, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire et le Ghana qui s'engagent avec le FMI, avec les effets habituel, hein, donc baisse de dépenses et hausse des impôts ici et là. Mais pour l'instant, nous pensons que cela va se passer de manière graduelle et ça n'aura pas trop d'effet sur les entreprises. Et en même temps, il y a un environnement de prix international qui est moins
favorable.
L'inflation est à la baisse, ce qui est favorable pour la consommation et toutes les entreprises.
Alors, François Conradi, on va certainement survoler certains pays comme ceux de l'Afrique centrale, habituellement connus pour donc la disponibilité des matières premières. On sait qu'en République démocratique du Congo, il y a aussi des stratégies de valorisation qui sont en cours. Alors, qu'en est-il des autres régions du continent, par exemple l'Afrique de l'Est?
Alors, en Afrique de l'Est, c'est une région très prometteuse pour le business à cause de la population qui est en forte croissance et a beaucoup d'opportunités de commerce dans la région. Et c'est pour cela que c'est dommage que là, ces dernières semaines, nous avons vu beaucoup d'instances de guerre commerciale entre la Tanzanie et l'Ouganda et le Kenya, tout cela a commencé avec une décision du président Ruto du Kenya d'interdire l'importation de maïs et de farine de maïs de la Tanzanie pour protéger les Kenyans. Et cela a causé les autres pays de la sous-région de prendre des mesures de rétorsion. Et donc, ça, c'est dommage. Et c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté économique d'Afrique de l'Est, INC. Voilà, donc, nous voyons ça. Mais en même temps, il y a beaucoup dans le service financier, assurance, tout cela. Les entreprises kenyanes, surtout, sont très bonnes à se répandre dans le reste de la région.
Alors, qu'en est-il de l'Afrique australe, François Conradi?
L'Afrique australe, comme région économiquement, est surtout tirée par l'Afrique du Sud et l'Angola. En Afrique du Sud, des problèmes de délestage d'électricité compliquent un peu le paysage économique. Mais il y a toujours pour les mêmes raisons qu'ailleurs, hein, une inflation à la baisse, une perspective de taux d'intérêt qui vont baisser à partir du milieu de l'année. Nous pensons que ça va être une meilleure année qu'auparavant, avec tout de même la caution que c'est une année électorale. Il y a des tensions dans l'air, il peut y avoir des mauvaises nouvelles qui vont être dans les journaux et qui vont avoir un effet sur les perceptions des investisseurs étrangers de l'Afrique du Sud. En Angola, c'est surtout une question de pétrole. Donc, ils sont sortis de l'OPEP parce qu'ils ne voulaient plus se laisser limiter dans leur volume de production. Donc, la production est là, est à la hausse, mais même s'il y a des tensions à l'international, la perspective est pour un prix du baril qui va continuer à baisser sur le restant de l'année. Donc, assez ambigu comme perspective pour l'Angola, mais ça devrait aller assez bien. Mais ce qu'il y a en Angola, c'est qu'il y a un programme de de relance de la bourse des valeurs. Donc, il y aurait des opportunités de sociétés étatiques que l'État va vendre, qui peuvent être très intéressantes.
En tout cas, je pense qu'on a en tout cas fait une météo continentale par rapport aux perspectives économiques et d'investissement. Donc, en 2024, alors une dernière question, il y a des secteurs certainement qui se démarquent dans ce contexte de mise en œuvre progressive de la zone économique africaine de libre-échange continentale, la ZELECAF. Alors, si vous aviez des secteurs sur lesquels orienter les investisseurs potentiels, quels sont ces secteurs?
Je pense que c'est la manufacture où il faut regarder les fabriques, les objets de fabrique africains qui vont être exportés sur le continent en remplacement de manufactures qui viennent d'ailleurs d'Asie. C'est cela l'opportunité.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, François Conradi, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Vous êtes basé à Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci, Omar.
Destination Éco.
Nous allons directement à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. Pour mieux connaître l'économie bissau-guinéenne, ce pays lusophone cherche à renforcer sa coopération économique avec le Maroc, comme nous le dit Mustapha El Bouri, il est le directeur général du cabinet Best Afrique.
Une date a marqué dans les annales, c'est la date à laquelle, en 2015, la date à laquelle Sa Majesté Mohamed VI s'est rendu pour la première fois en Guinée-Bissau. Suite à cette visite, vraiment, je dirais qu'une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre le Royaume du Maroc et la Guinée-Bissau. Ça a été en fait un déclenchement et un catalyseur pour tout ce qui est échange, relations et relations, que ce soit au niveau politique et également économique entre les deux pays. Et d'ailleurs, il va y avoir très prochainement le lancement d'une ligne directe qui est à l'étude, en fait, entre la Royal Air Maroc pour lancer donc une ligne directe entre Casablanca et Bissau. Pour ce qui est, en fait, de l'économie de la Guinée-Bissau, je dirais qu'à l'heure actuelle, l'économie du pays dépend essentiellement de la production de l'anacarde. L'anacarde qui est, en fait, le fruit qui contient donc la noix de cajou et également de la pêche. Donc en fait, si on regarde bien ces deux secteurs, je dirais que ça ouvre vraiment de très belles opportunités pour les entreprises marocaines qui peuvent vraiment apporter leur expertise dans la transformation des produits. En effet, le Maroc est un grand consommateur de noix de cajou, aujourd'hui qui se produit principalement importé du Vietnam et d'Inde, mais principalement du Vietnam. Vu que l'entière production de la Guinée-Bissau est vendue sous forme brute, c'est-à-dire avec la coque, non décortiqué, hein, ça laisse vraiment une très grande opportunité pour le Maroc, soit de ramener donc ce produit et de le transformer ici localement au Maroc, soit d'installer une unité de transformation directement en Guinée-Bissau. Et pour ce qui est des produits halieutiques, de très grandes opportunités dans ces deux domaines pour les entreprises marocaines, même pour les petites et moyennes entreprises. Il faudrait envisager peut-être de faire un voyage d'affaires avec les principales entités marocaines en Guinée-Bissau, afin qu'elle puisse vraiment se rendre compte en fait des potentiels qu'il y a localement.
Merci à vous, Mustapha El Bouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique, cabinet spécialisé dans les implantations et les investissements sur le continent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme de podcast Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes et vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Medium.